Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche, votre nouvelle chronique d'information. Elle vous est proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. C'est le cauchemar numéro 1 de tout propriétaire ou locataire, le squat. Imaginez, vous rejoignez votre résidence secondaire, vous glissez les clés dans la serrure, la porte s'ouvre et là, stupéfaction, vous découvrez de parfaits inconnus confortablement installés dans votre salon et pas franchement enclins à partir. Voilà la situation à laquelle a été confronté un couple de retraités vivant à Théoule-sur-Mer. C'était à la fin de l'été dernier. L'affaire qui a fait les choux gras de la presse a provoqué l'indignation de l'opinion publique. Elle a même fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. On sait également qu'à Marseille, ce phénomène prend de l'ampleur. Face à cette situation, l'Assemblée nationale est venue compléter la loi en matière d'évacuation forcée en cas de squat du domicile. On va voir exactement en quoi avec nos deux experts du logement, Thierry Moalic, le directeur de la DIL 13, et Amandine Ripoll, juriste spécialisée en droit du logement. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thierry, avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision du point de vue de la loi, c'est quoi exactement un squatteur ?
En fait, le squat du domicile d'autrui consiste en l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Ces dernières années, la législation a évolué en vue de réformer la procédure contre le squat du domicile d'autrui. Il y a ainsi eu un avant et un après la loi Dalo du 5 mars 2007.
Tout à fait. La loi Dalo, et plus précisément son article 38, a fondamentalement changé la donne, puisqu'elle introduit une procédure d'exception. Donc, depuis 2007, le préfet, sous réserve de certaines conditions, peut procéder à l'évacuation forcée sans avoir recours à un juge. Il est important de rappeler que cette procédure peut intervenir quel que soit le moment de l'année. Les dispositions de la trêve hivernale ne s'appliquent pas ici.
Dernièrement, la loi de décembre 2020 est venue modifier les dispositions existantes, Amandine.
En effet, cette loi qui vise à mieux protéger le droit de propriété face à de tels comportements frauduleux a élargi le champ d'application et accéléré la procédure administrative d'évacuation forcée en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui.
Thierry, c'est une nouveauté de la loi de décembre 2020. La procédure administrative d'évacuation forcée englobe désormais les résidences secondaires et les résidences occasionnelles.
Absolument, cette loi précise que la notion de domicile ne se limite pas à la résidence principale. La notion de domicile est étendue ici au sens de la jurisprudence pénale et non au sens du droit civil. Il s'agit du lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
Donc cela fonctionne même sur une maison de vacances où je n'ai pas séjourné depuis des années.
Oui, l'occupation effective du logement au moment où les squatteurs s'y introduisent n'est pas un critère nécessaire pour engager la procédure d'évacuation forcée. Dès lors que le local comporte les éléments minimaux nécessaires à l'habitation et qu'il puisse servir à tout moment de refuge à celui qui dispose de droits sur lui.
Thierry, si je comprends bien, cette procédure doit donc bien être distinguée de la procédure applicable au squat d'un logement vacant.
Tout à fait. Cette procédure, en ce qu'elle déroge au droit commun, ne vise qu'à la protection du domicile. Certes, entendu largement dans la mesure où on l'a vu, les résidences secondaires et occasionnelles sont aujourd'hui également concernées, mais elles restent inapplicables au squat d'un logement vacant. Cette procédure, pour les mêmes raisons, n'est pas applicable lorsque le local est destiné à un autre usage que l'habitation, comme un hangar par exemple.
Au niveau des personnes pouvant être à l'initiative de cette procédure d'évacuation, là aussi un élargissement a été opéré.
Absolument, la procédure peut bénéficier non seulement à la personne dont le domicile est squatté, le propriétaire et le locataire, mais aussi à toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci. L'usufruitier ou les enfants d'une personne âgée placée hors de son domicile peuvent ainsi désormais engager la procédure administrative d'évacuation forcée.
Amandine, sur la mise en œuvre de la procédure, le préfet ne peut agir que sur demande. Quelles en sont les conditions ?
Alors, cette demande est subordonnée à trois conditions. Un dépôt de plainte préalable, la preuve que le logement occupé illicitement constitue le domicile du demandeur ou de la personne à tout le moins pour le compte de laquelle il agit. Et sur ce point, il a été demandé au préfet, dans une circulaire de janvier 2021, de ne pas exiger un formalisme excessif, mais d'accueillir toute preuve pertinente, sachant que certaines preuves peuvent se trouver dans le logement occupé. Par ailleurs, lorsque la demande est présentée par un tiers, celui-ci devra établir le titre l'habilitant, bien sûr, à agir dans l'intérêt et pour le compte de la personne dont le domicile est occupé. Et troisième condition, le constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La loi de décembre 2020 a également pour objet d'accélérer la procédure administrative d'évacuation forcée, mais sous quel délai ?
Tout à fait, la rédaction initiale de l'article 38 de la loi Dalo ne précisait pas sous quel délai la mise en demeure devait intervenir une fois le préfet saisi. Il est désormais précisé que la demande d'évacuation forcée doit être examinée par le préfet dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande. Cette demande peut être refusée si les conditions ne sont bien sûr pas réunies, mais également en présence d'un motif impérieux d'intérêt général.
Lorsqu'il apparaît, à l'issue de l'instruction, qu'une suite favorable peut être accordée à la demande d'évacuation forcée, comment et sous quel délai l'évacuation du logement a-t-elle lieu ?
À l'issue de la décision favorable, une mise en demeure de quitter les lieux est adressée aux occupants. Cette dernière est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Elle est également publiée, sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux, et elle est notifiée à l'auteur de la demande. Sauf circonstances exceptionnelles, l'évacuation doit avoir lieu dès la fin du délai de mise en demeure, sans délai complémentaire, sauf opposition du demandeur dans ce délai.
Thierry, j'imagine que l'efficacité de cette procédure et le respect du timing reposent sur la bonne coordination entre les différentes puissances publiques.
Effectivement, l'efficacité de cette procédure et le respect des délais fixés par la loi impliquent une coordination entre l'ensemble des administrations et en particulier les services de l'État et les parquets. Par ailleurs, si notre propos s'est concentré sur la question de l'évacuation des lieux, de tels comportements relèvent également de possibles poursuites pénales.
Merci à vous deux, amis auditeurs, j'espère que ces informations vous seront utiles si vous traversez notamment ce genre de situation, ce n'est jamais évident, mais ne désespérez pas, les conseillers juristes de la DIL sont là pour vous épauler sur ce sujet. Vous pouvez les contacter tous les matins au 04 96 11 12 00 ou consulter le site internet de la DIL www.adil13.org. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?